Donc, je vous propose ce matin ce thème. Jésus te connaît bien plus que tu ne le penses. C'est un enseignement que j'ai eu à cœur de vous apporter suite à un lien que Étienne m'a envoyé il y a plusieurs semaines déjà. Alors c'était pas du tout le thème d'Étienne. Étienne était plutôt sur le fait de l'inspiration prophétique. Puis-je tout dire? M'autorisez? Bon. Vous allez pas vous plaindre après? Mais je le fais avec bienveillance. Vous savez que Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, et c'est un peu le fil conducteur de notre année. Faites comme j'ai fait, soyez comme j'ai été. Et dans ce cadre de Jésus te connaît, je pense à deux textes bibliques, il y en a plein, hein, mais celui du psaume 139. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou si je suis chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. Et dans Marc, chapitre 2, il est dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Après avoir dit ça, je pourrais dire bon dimanche et à bientôt. Mais je pense qu'il faut juste aller un peu plus loin. Jésus nous connaît dans les moindres détails. Nous le savons intellectuellement. Mais pour illustrer mon propos, je voudrais vous passer une vidéo qui ne dure pas très longtemps. J'ai pris une vidéo de 2 minutes sur... je sais pas, enfin bref, c'était très long. Le culte, le lien que mon fils m'a envoyé, c'était 4 heures de culte. Donc voilà, c'est. Donc je vous invite à regarder la vidéo et puis on en reparle.
Acclame d'abord pour le Seigneur. Parce que pendant que je parle, je vois que vous êtes sorti d'un grand, grand, grand combat. D'un combat terrible qui a failli vous tuer. N'est-ce pas, maman? Vous avez loupé la mort. Je suis au mois de juillet et de août de l'année passée. Passez le micro, je vais la traumatiser un tout petit peu. Parce que vous savez, dans le prophétique, hein, quand vous êtes avec des gens comme des Baba Uriel ici, les anges sont en mouvement de part et d'autre. Vous savez, cet homme exerce le prophétique, ça fait des années. Et ici, là, il y a des prophètes majeurs qui ont travaillé ici. L'atmosphère ne peut être couverte. Maman, je suis maintenant là entre juillet et août. Vous étiez tombé malade. Vous avez même fait une crise. Mais le jour où vous avez fait une crise, je vous donne un détail qui va vous surprendre. Le détail, c'est que, et je peux le dire, juste pour que vous compreniez que Dieu vous connaît. Lorsque vous avez fait une crise, on vous a déshabillé. Merci. Parce que ce jour-là, vous étiez pratiquement mort. Et ce jour-là, elle lui a parlé de Phares.
Alléluia.
Merci Seigneur. Regardez, est-ce que je peux parler? Vous avez fait la crise dans la chambre. La personne qui vous a sauvé, c'est un petit enfant. La personne qui vous a sauvé, c'est un petit enfant. Mais regardez, Melia Stupera de Féas. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Oh, tu me donnes un bon amen. L'onction prophétique vient sur toi. Ah, voilà, écoutez, pendant que je parle, je suis en train de voir qu'un petit enfant qu'on appelle Ethan. Mia Kiralia Faha complète le Fahaski. Je vois un petit enfant qu'on appelle Ethan qui est venu vous sauver. Pourquoi? Parce que sa soeur priait pour vous. Regardez. Attendez pas ma maman, attendez. Vous à l'époque, vous étiez en train d'habiter chez votre grande soeur. Et lorsque vous avez fait la crise, vous aviez pensé que Ethan a versé l'huile par terre.
Avance, prophète.
Il était exactement 20h13 minutes 14 secondes.
Il était exactement 20h13 minutes et quelques secondes. Et ça dure sur la vidéo. Il dit à un jeune écoute, ton frère, ton grand frère s'appelle comme ça. Et puis après vient un frère qui s'appelle comme ça, ta sœur elle s'appelle comme ça, tu habites dans tel lieu, et le numéro du bâtiment où tu habites c'est le 56C. Et tu as joué au football et ton entraîneur est parti dans une autre ville, il est maintenant dans cette ville-là, entraîneur, etc. Enfin bref, et ça dure... Ça dure. Je n'ai pas tout regardé, mais ça dure un moment. Et il dit, je ne vais pas te demander, je ne vais pas dire Dieu te bénit, parce que ça, c'est tout le monde. C'est dire, dans une parole prophétique, Dieu te bénit. Allons plus loin que ça, disait-il. Peut-être que la première chose que je voudrais faire, et ça n'a rien à voir avec le message qui suit, je voudrais que l'on prie pour que nous puissions vivre une telle onction prophétique au milieu de nous, avec autant de détails et de précision. Seigneur, donne à notre Église, donne à notre communauté des hommes et des femmes qui entendent ta voix, qui sont dans le ciel qui est ouvert, pour voir et pour entendre et pour apporter les paroles qui viennent de toi. Nous te prions, je te prie, pour que au milieu de nous, il y ait une telle onction prophétique. Nous ne pouvons pas l'inventer, Seigneur, il faut que ça vienne de toi. Nous ne pouvons pas la fabriquer, il faut que ça vienne de toi. Mais viens, saisis-toi de nos cœurs, afin que cette onction prophétique aussi détaillée puisse être vécue au milieu de nous. Amen. C'était une parenthèse. Partant de là, je voudrais aller plus loin et vous parler de nos attitudes, de nos pensées et de notre cœur. Je commence par ce qui pourrait être négatif. Soyez assurés que je ne vise personne en particulier, je n'ai pas de compte à régler. Et sachez aussi que je souhaite être vraiment bienveillant. Voilà, il n'y a pas de condamnation dans mes propos. Jeune chrétien, dans l'histoire de Caïn et Abel, qui se trouve dans la Genèse, je trouvais Dieu tellement injuste. Pourquoi il rejette l'offrande de Caïn, alors que il a travaillé la terre et il est venu ramener les fruits, alors que son frère, alors je ne veux pas dire que c'est un boulot moins important, mais il était berger, et donc lui, il a présenté un agneau. Dieu a préféré l'offrande d'Abel, d'Abel, plutôt que de celle de Caïn. Et quand j'étais jeune chrétien et que je lisais ça, je disais au Seigneur, « Seigneur, tu es injuste. » Jusqu'à ce que, tout simplement, je lise 1 Jean au chapitre 3, qui nous dit que personne ne suive l'exemple de Caïn, qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. En fait, la différence, quand j'ai compris que la différence du traitement de Dieu dans les offrandes, c'était l'attitude de cœur, alors effectivement, les choses changent. C'est l'attitude de cœur de l'un et de l'autre qui a fait que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais n'a pas accepté celle de Caïn. D'ailleurs, après son offrande, Caïn n'étant pas content, Dieu vient le voir pour lui dire « Écoute, le péché est en train de se coucher à ta porte, là, mais sois plus fort que lui, surmonte !» Mais Caïn n'a pas écouté Dieu et il a tué son frère. C'est l'attitude du cœur que Dieu juge et l'offrande accepté par Dieu, était l'offrande du cœur. C'est comme si vous veniez au culte le dimanche matin en disant « Seigneur, me voici » et que durant la semaine, vous viviez n'importe comment. J'ai entendu dire, et ça me fait toujours mal un peu, j'ai entendu durant mon pastorat des enfants me dire, « Ouais, mais tu sais, mes parents ne sont pas les mêmes quand ils sont à la maison que quand ils sont à l'église. Wow. » J'ai pas, encore une fois, j'ai pas de jugement négatif. Je veux simplement qu'on puisse prendre conscience que Dieu regarde nos cœurs. Dieu le Père n'apprécie pas l'esprit religieux pour faire bonne figure. Et Caïn est venu, comme son frère, faire une offrande à Dieu, mais d'une manière religieuse. Tiens, Seigneur, je t'offre quelque chose. Les Israélites, les Hébreux plutôt, ont fait exactement la même chose. Quand ils ont fait le veau d'or, ils ont construit un autel pour faire une offrande à l'Éternel en disant « L'Éternel, c'est le veau d'or ». Du religieux. Et Dieu n'a pas envie de ça. Le Seigneur, ce qu'il attend, c'est notre attitude de cœur. Notre attitude. Pour un autre propos, je pense à cette prophétesse qui nous disait, qui me disait, tu sais Bernard, il y a des gens qui font belle mine devant toi, devant vous, mais avec tellement de critiques par derrière et qui diffusent du venin. Savez-vous que dans Matthieu, rien que dans Matthieu, Jésus dénonce 14 fois l'hypocrisie. Ça revient continuellement. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. « Le prophète que vous avez vu dit à un jeune qui était là devant, je schématise, hein, mais il lui dit, tu es appelé à un ministère, mais dans ta poche, dans ton téléphone, tu as un truc porno dedans, et tu regardes sans arrêt. Arrête, parce que sinon tu ne vivras pas le ministère. C'est paf. Alors devant tout le monde, moi j'aurais pas osé, hein. Mais bon, voilà. Lui, il a osé, et le gars, il était tremblant. Je pense à un autre prophète qu'on a reçu ici. Il me disait, je lui ai dit, ah, tu manques de sagesse, mais enfin bref, il disait dans une, il me rapporte que dans une rencontre de pasteurs, il leur a dit, vous savez, parce qu'il lui posait des questions sur qu'est-ce que c'était que le prophétique, parce que les gens, tout le monde n'était pas au courant, et il leur a dit, vous savez, ici, je peux dire qui a commis l'adultère. Et il disait ça à des pasteurs. Et je vous prie de croire que les gens l'ont pu inviter. Hein. Alors moi, je ne suis pas prophète, hein, mais la dernière fois que j'ai enseigné à Jeunesse en Mission, le Seigneur a permis que je puisse avoir des paroles de connaissance pour chacun. Et j'entends encore un jeune en plein milieu dire « mais il va faire ça avec chacun d'entre nous, mais c'est flippant !» C'est flippant. C'est flippant, mais c'est comme ça. Le Seigneur sait ce que nous pensons. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. Il ne nous juge pas en fonction de ce que nous faisons, y compris pour lui, mais en fonction de notre cœur, de notre état d'esprit. Il y a, par exemple, je ne vais pas développer, mais il y a une telle différence entre le roi Saül et le roi David. Et la différence, c'est une différence de cœur, de la même manière que Caïn et Abel. Il y a la même différence entre Pierre, qui a trahi Jésus, et Judas, qui a trahi Jésus. Les deux ont trahi Jésus, et pourtant, la finalité n'a pas été la même pour l'un comme pour l'autre. Pourquoi ? Parce que là, il y a une différence de cœur entre les deux. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est une diapo dans Proverbes. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. OK pour vous ? Encore une fois, mon intention n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Mais je suis partisan de se regarder dans un miroir et de dire, ben, comment es-tu, Bernard ? Quand je me regarde des fois dans un miroir, c'est pas souvent, hein, vous avez vu, je suis mal coiffé, paraît-il. Quand je regarde dans un miroir et que c'est pour examiner mon cœur, je me mets devant un miroir. Bernard, comment tu es ? Quel est l'état de ton cœur ? De quelle manière tu penses ? Je me pose les mêmes questions à moi, hein, dans le miroir. Ça paraît un peu dingue, hein, mais bon, c'est chacun sa manière de faire. Hein. Bernard, est-ce que tu es orgueilleux ? Est-ce que tu es hypocrite ? Est-ce que tu es adultère ? Je crois en ce qui me concerne, qu'il est juste de se mettre devant un miroir et de voir comment et qui nous sommes en face du miroir. Et de dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que je vois bien que là, et là, et là, ce n'est pas ce qu'il faut. Viens, change mon cœur, change mon état d'esprit, change ma vie sur tel et tel point. Faut-il encore avoir simplement le courage de se mettre devant un miroir et de faire cet exercice? Je vous invite à le faire cette semaine et à répondre pour vous-même. Encore une fois, il n'y a pas de culpabilisation. Je n'ai pas envie de culpabiliser qui que ce soit. Je veux juste qu'on soit honnête envers soi-même, envers le Seigneur, et si possible, envers les autres. Allons un tout petit peu plus loin, parce que dans la connaissance que le Seigneur a de nous, il ne voit pas que les points noirs ou sombres, il voit aussi ceux qui sont lumineux. J'ai cité David tout à l'heure, je cite le verset de Actes au chapitre 13. « Après avoir rejeté Saül, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, « J'ai trouvé David, cet homme correspond à mon désir, il accomplira tout ce que je veux. » Pourtant, David a été adultère. Pourtant, il a été meurtrier, assassin même. Parce qu'il a sciemment fait tuer le mari de Bathsheba, à qui il avait fait un enfant. Et pourtant, malgré ces deux attitudes criminelles, Dieu dit, David a un cœur selon moi. Dieu ne juge pas les actes de David, même s'il lui a dit, David, il lui a mis le nez là où il fallait, hein, le Seigneur à David. Mais en finalité, c'est le cœur de David qui aime Dieu, qui aime le Seigneur, qui se réjouit en lui de tout son cœur et qui est sincère, c'est ça que Dieu retient. Un autre passage dans l'évangile de Jean concerne Nathanaël. Jésus voit Nathanaël qui vient à lui et dit à son sujet, « Voilà un vrai Israélite. Cet homme-là ne sait pas mentir ou dans une trop... » Autre traduction, il n'y a pas de ruse en lui. Alors Nathanaël demande à Jésus, « Mais comment est-ce que tu peux me connaître ?» Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, tu étais sous le figuier. » Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé sous le figuier. Mais ça devait être assez pertinent pour que Nathanaël dise, « Ah ben punaise !» Personne ne pouvait voir, mais lui, il voit. Et le figuier, c'était peut-être pas visible. Peut-être que Nathanaël a été... peut-être que Philippe a été chercher Nathanaël qui était à quelques kilomètres de là. Jésus n'a pas vu de ses yeux, juste là, parce qu'on pourrait dire, ah bah ouais, mais il l'a vu, forcément, t'es à côté. Je t'ai vu. Jésus salue le cœur de Nathanaël et lui dit, tu as un cœur droit. Sans fraude. Waouh! Ça nous plairait aussi, hein, que Jésus nous dise ça. Dieu teste Abraham en le mettant à l'épreuve et en lui disant « Ton fils, celui que j'appelle l'unique, donne-le-moi en offrande. » Parlerait pas plus, mais Abraham le fait. Jésus lui-même a été testé dans son obéissance en Philippiens. Jésus a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il y a une corrélation entre le fait que Dieu l'ait placé sur la plus haute place et l'humilité et l'obéissance dont il a fait preuve. C'est pourquoi. C'est parce que Jésus avait un cœur qui était agréable à son Père. Dans la vidéo, le Seigneur, au travers de ce ministère prophétique, dit à plusieurs personnes, « Tu sais pourquoi le Seigneur te bénit ?» Parce qu'il l'a vu, ta persévérance, tous les vendredis à la réunion de prière. À quelqu'un d'autre, parce qu'il a vu que tu as été fidèle dans les offrandes que tu apportais au Seigneur. Parce qu'il a vu, parce que... Il y avait des raisons, et il donnait des raisons aux personnes. Dieu veut te bénir parce qu'il a vu que tu marchais avec lui. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît aussi nos souffrances. Dieu te voit, Dieu me voit, le Seigneur voit notre communauté et il nous regarde en fonction de notre cœur et non au travers de notre paraître ou au travers de notre vanité. Et même s'il y avait ici beaucoup de miracles et de guérisons, ce que je réclame, ce n'est pas sur la puissance que le Seigneur nous jugerait, parce que la puissance lui appartient et c'est lui qui accorde, mais c'est sur notre cœur sincère, toujours. Et que le Seigneur nous garde dans l'humilité si un jour, au milieu de nous, il y a des guérisons, et des miracles, et des actions puissantes de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde dans l'humilité parce que nous serons jugés selon nos cœurs. Je vais terminer par la prière avec un double appel. Mais avant cela, je récapitule brièvement. Pourquoi en présence de gens, tu es prévenant avec ton conjoint alors que tu es tellement imbuvable, voire irrespectueux, voire violent en parole ou en acte, lorsque tu es seul à seul. Le Seigneur le voit. Pourquoi ta bouche est mielleuse par devant, mais si critique par derrière? Le Seigneur le voit. Pourquoi dis-tu être fidèle, alors qu'en cachette, tu te gaves de porno? Pourquoi déclares-tu vouloir vivre la volonté de Dieu, alors qu'en coulisses, tu essayes de manipuler? Pourquoi parles-tu tant d'amour, alors que tu ne le vis pas toi-même? Le Seigneur le voit. Le Seigneur voit tout. Et il nous demande, ce matin, aux uns et aux autres, de vivre comme il faut. Pourquoi penses-tu que tu n'as pas de valeur ? Alors, peut-être avant de passer à cela, je crois que j'ai oublié un verset. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah oui, c'est ça. Proverbe. Proverbe 6. Alors, peut-être qu'il faut revenir un peu en avance parce que j'ai dû passer ce... Voilà. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas du tout. C'est le regard méprisant, la bouche menteuse, les mains qui tuent les innocents, le cœur qui prépare de mauvais coups, les pieds qui courent pour faire du mal, le témoin qui dit des mensonges, mais il y en a une 7e, le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Sans commentaire. Pourquoi penses-tu que tu n'as pas de valeur alors que le Seigneur voit que tu es capable ? Pourquoi penses-tu que tu es nul alors que le Seigneur te voit tellement, tellement fidèle ? Pourquoi penses-tu que tu ne sers à rien pour Dieu alors que tu fais le ménage ? Alors que tu veux te rendre utile, alors que tu fais des travaux, alors que tu aimes prendre soin de l'éducation des enfants, et j'en passe. Pourquoi tu t'empêtes ou tu te mets en colère contre toi-même du fait de non-résultats dans le domaine des dons spirituels, alors que quand tu pries pour les autres, je dépose ma bénédiction même si tu ne le vois pas. Je redis. Pourquoi tu te mets en colère contre toi-même du fait de non-résultats dans le domaine des dons spirituels, alors que quand tu pries pour les autres, moi, dit l'Éternel, je dépose ma bénédiction sur cette personne. Même si tu ne le vois pas. Pourquoi dis-tu « Ah, je suis trop âgé pour servir le Seigneur, alors que tes sourires, tes encouragements, tes prières font du bien autour de toi. » J'arrête là la liste qui pourrait s'allonger encore. Un dernier verset, pris de Jérémie, chapitre 17. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Je disais, je vais faire un double appel. J'appelle ceux qui sont repris dans leur cœur ou que le Seigneur a repris dans leur cœur et qui veulent se repentir et que ça change. Je leur demande de se lever, attendez. Le Seigneur voit vos cœurs. Et en même temps, je voudrais que se lèvent ceux qui doutent que le Seigneur les voit avec attendrissement et reconnaissance. Je leur demande de se lever aussi, de telle sorte qu'on ne puisse pas distinguer qui se lève pour une raison et qui se lève pour une autre. Parce que le but n'est pas de voir quel est l'état de l'un et de l'autre, mais que dans l'humilité, on puisse se lever. Et si possible, je demande à chacun de fermer les yeux et de ne pas regarder qui se lève, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on soit debout pour le Seigneur. Nous allons prier, et le Seigneur va voir. Il va lire dans nos cœurs. Soyons honnêtes et droits devant lui. Je le dis, c'est aussi pour ceux qui écoutent ce message en replay. Si tu écoutes ce message en replay et que tu es concerné par l'un et par l'autre, lève-toi aussi là où tu es, parce que c'est aussi pour toi. Voilà, je ne vais pas faire un appel plus grand que ça, je vais juste prier. Et je vais prier aussi après au nom, ou en même temps au nom de l'Église elle-même. Voilà, tu as été touché, lève-toi maintenant. Mais tu n'es pas obligé, c'est pas... Voilà. Mais c'est maintenant, parce que je vais prier. Seigneur, nous sommes devant toi. J'allais dire, nous sommes comme nus devant toi. Nos cœurs sont à découvert. Nous sommes chacun debout individuellement, et je le suis moi-même au nom de notre communauté. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour notre hypocrisie, pour notre vanité. Pardon pour nos critiques qui te blessent et nous divisent. Nous te prions comme le psalmiste au psaume 139. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Aide-nous aussi, Seigneur, aide-nous à reconnaître les bonnes choses qui sont en nous. Aide-nous à avancer joyeux avec toi, enthousiasmés par ton amour, enthousiasmés par ton accueil, là même où nous avons péché, comme David. Seigneur, nous voulons être une femme, un homme, une assemblée, selon ton cœur. Parce que nous t'aimons et que nous voulons honorer le Père. Et parce que nous voulons nous réjouir en toi. Amen. Je vous invite à chanter un dernier chant pour conclure.
Loin de toi, regarde. regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Toutes tes voix dans l'éternité.